chapitre 12. Le chapitre 12 commence par deux magnifiques récits et nous sommes obligés de les prendre l'un après l'autre séparément. Chapitre 12, verset 1er, jusqu'à 11. Le premier de ces récits étant le souper à Béthanie avec le parfum répandu sur les pieds de Jésus par Marie, et le second, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Deux récits magnifiques. Ensuite, il y aura un discours du Seigneur Jésus. Mais ces deux récits devront faire l'objet de deux réunions. On passe progresser plus vite, parce qu'ils sont remplis de précieuses leçons qu'il nous faut recueillir avec soin. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Nous lirons le passage correspondant de Marc 14. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon ce parfum ? À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Nous avons une correspondance entre ces récits qui ne sont pas dans tous les détails absolument semblables. Mais ils correspondent. Il y en a un autre aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26 de Matthieu, il est le même. Et il y en a un troisième qui ressemble beaucoup à cela, c'est celui de Luc 7, la pécheresse, qui est dans la maison de Simon le pharisien. Mais attention, il ne faut pas confondre ces deux groupe, ces deux récits, plutôt le récit de Luc avec le groupe des récits de Matthieu, Marc et Jean. Matthieu, Marc et Jean, Matthieu 26, Marc 14, vous remarquerez que c'est à la fin de ces évangiles, C'est donc tout à fait à la fin du ministère de Jésus que la chose s'est produite, comme nous le voyons ici dans Jean. Alors, ces trois choses correspondent, et ça se passe chez un certain Simon, appelé le lépreux. Il se trouve que ce sont deux Simons. Alors, des auteurs ont voulu faire le rapprochement, ça ne va pas, parce que d'abord, l'autre, celui de Luc 7, est au début du ministère de Jésus. Au début, on ne pense seulement à ce moment-là qu'à le faire mourir. C'est l'idée, simplement. L'intention commence à germer. Tandis qu'ici, n'est-ce pas, nous sommes arrivés au moment où l'on est décidé, bien décidé, à faire mourir Jésus. Et puis, le récit de Luc se déroule en Galilée, tandis que celui-ci, à Béthanie, à 3 kilomètres environ de Jérusalem. Il y a donc deux choses différentes. Alors, il se trouve que c'est Simon, l'un est pharisien, celui de Galilée, et l'autre, il est un lépreux guéri par Jésus. Mais des Simons, il y en a des quantités, n'est-ce pas? Là même, n'est-ce pas, il est question d'un Simon, un des fils Judas Iscariote, fils de Simon, voyez-vous, n'est-ce pas? Des Simons, il y en a beaucoup, on en compte une quinzaine, quelque chose comme ça, dans les évangiles. Alors, par conséquent, c'était un nom très répandu, et ça ne veut rien dire que les deux hôtes du Seigneur, tant en Galilée que à Béthanie, se soient appelés Simon. Mais l'un était lépreux, et l'autre, lépreux guéri, l'autre était un pharisien. Ceci étant dit, nous aurons besoin des deux récits parce que il se trouve qu'en cette occasion, Marc éclaire bien mieux la parole du Seigneur que Jean. Jean a mis en évidence un point, mais il a passé sur d'autres, n'est-ce pas? Les évangélistes, deux évangélistes rapportant le même récit, vont s'attacher à mettre en évidence tantôt un point qui les a particulièrement saisis, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit veut que ce soit leur témoignage qui est raconté sous contrôle d'esprit et sous inspiration d'esprit, certes, mais c'est quand même un témoignage, n'est-ce pas? Il faut que l'Écriture reste un grand témoignage. Alors, ils disent ce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, ce qui est resté imprimé dans leur cœur. Jean a donc ici un détail particulier, n'est-ce pas, qu'il va mettre en évidence, tandis que les autres évangélistes ont mis autre chose en évidence. Dans une autre maison que celle de Lazare, ce n'est pas dans la maison de Lazare, un souper est préparé à l'intention de Jésus 6 jours avant la Pâque. Jésus arrivant à Béthanie, un souper lui est préparé. Et la maison dans laquelle ce souper est préparé est celle donc d'un certain Simon le lépreux, guéri par Jésus, dont nous parlent les évangiles synoptiques de Matthieu et de Marc. Marthe sert, nous est-il dit. Marthe servait. Marthe est cette femme que nous voyons décidément experte en réception. Hein, c'est elle qui sait organiser un repas, confectionner un repas, c'est sa manière, à elle, une de ses manières, d'honorer le Seigneur. Hein, vous connaissez le récit de Luc dans lequel nous voyons les deux sœurs, l'une qui s'affaire, et c'est Marthe, et l'autre qui est là, au pied de Jésus, assise au pied comme l'étaient les disciples, n'est-ce pas, au pied du maître, et écoutant, hein, et Jésus disant, elle a choisi la bonne part. Eh bien donc, Marthe est experte en réception, et c'est elle qui sert à table, elle a ordonné le repas, et elle sert. En somme, par ce détail, et par l'attitude que nous verrons chez Marie, ici, sa sœur, nous pouvons dire que chacune des trois personnes de la famille, Lazare, glorifie le Seigneur selon ses moyens, selon, on pourrait dire, son caractère. le caractère, attention, le tempérament d'une personne doit sombrer dans la mort lors de la conversion. Mais le caractère, il y a certains traits de caractère, certaines affinités, qui ne disparaissent pas et qui n'ont pas à disparaître dans la mort. Parce qu'il n'est pas mauvais, ne disparaît pas dans la mort. Il n'est pas mauvais, ce qui fait, si vous voulez, l'individualité, ce qui fait l'originalité d'une individualité. Dieu ne veut absolument pas que tout se soit strictement sur le même modèle, n'est-ce pas ? Et que les sentiments purs de la foi, ne puissent s'exprimer tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La prière elle-même ne se ressemblera pas toujours à la prière. La prière de l'un ne ressemblera pas à la prière de l'autre, ou dans sa forme, ou dans son contenu, n'est-ce pas ? Nous voyons Jean, par exemple, c'est ce disciple que Jésus aimait. Il a une vocation très marquée à l'amour. Vocation qui va être utilisée, naturellement, n'est-ce pas ? Son âme, son esprit et son âme, les deux à la fois, sont capables de recevoir particulièrement ce message d'amour, de recevoir cette connaissance de l'amour et de l'exprimer. Les autres, non. Pierre, c'est l'homme spontané, lui, n'est-ce pas ? L'homme qui veut saisir. Bon, eh bien, c'est quelque chose de bon. C'est maladroit, c'est mal éclairé au cours de du ministère du Seigneur Jésus, n'est-ce pas ? C'est mal éclairé, mais quand il aura reçu le baptême du Saint-Esprit, eh bien tout cela sera bon, et il utilisera cette spontanéité qui est dans son caractère. S'agit-il d'une femme ? Eh bien il est évident qu'une femme va honorer le Seigneur en tant que femme, n'est-ce pas ? Elle ne va pas l'honorer de la même manière, sans doute, qu'un homme, n'est-ce pas ? Elle va, avec ses affinités de femme, avec sa sensibilité de femme, pourvu que sa sensibilité ne soit pas une sensiblerie, bien entendu, mais la sensibilité au service, l'âme au service de l'esprit. Et alors, le caractère, n'est-ce pas ? Caractère dominant de la femme va se manifester. Maintenant, chez les femmes, eh bien, c'est comme chez les hommes, bien entendu, il y en aura qui auront des prédispositions pour telle chose, d'autres pour telle autre. Et une femme qui est très sensible, n'est-ce pas, eh bien, elle va honorer le Seigneur. Le tout, c'est qu'elle puisse dans l'esprit et non pas dans la chair. Voyez-vous ? Là est le problème. Vous rappelez ce petit dessin que nous avons fait l'autre jour, n'est-ce pas, corps, âme, esprit. L'âme est au milieu, est entre le corps et l'esprit. N'est-ce pas, c'est l'étage, si je puis dire, intermédiaire. Alors, l'âme reçoit tantôt de l'esprit, tantôt de la chair. Mais il ne faut plus, dans l'état de conversion, dans l'état d'enfant de Dieu, il ne faut plus que l'âme soit mue par la chair. Hein. Il faut qu'elle soit mue par l'esprit. Mais l'âme, si cette âme est capable d'exprimer des sentiments venus de l'esprit, elle est capable de l'exprimer plus doucement, plus ouvertement, d'une façon plus affectueuse, plus tendre qu'une autre. Mais l'esprit peut utiliser cela, n'est-ce pas ? Alors, n'essayons pas d'être tous sur le même gabarit, n'essayons pas d'imiter les autres, livrons-nous à l'esprit et exprimons l'adoration, exprimons l'amour de Dieu, dans l'obéissance d'abord, mais aussi, n'est-ce pas, l'adoration dans les formes où nous le pouvons selon notre propre caractère. Nos affinités naturelles mises au service de l'esprit. Eh bien, c'est ce que nous voyons ici. Chacune des trois personnes de la famille, en somme, la famille de Lazare va glorifier le Seigneur selon ses moyens. Lui, Lazare, il lui suffit d'être le ressuscité, mais d'être là, d'être présent. Il n'a pas grand-chose à faire que d'être là comme un témoin de la puissance et de la gloire de Dieu tout récemment manifesté. Il est là, tout simplement. On n'a pas souvent l'occasion de souper avec un ressuscité. bien ces gens-là, ce jour-là, ils étaient à table avec Jésus, puis à côté de Jésus, là, il y avait cet homme que Jésus avait ressuscité. Un homme qui était déjà en proie à la dissolution, pas, la dissolution de son corps était déjà avancée, eh bien, il avait été ressuscité, il était là, bien vivant, il mangeait à table avec d'autres, ça c'était la manifestation d'une vie retrouvée, c'était donc, rien que par sa présence, une gloire, une glorification de Christ et la gloire de Dieu. Quant à Marie, elle, alors Marthe, n'est-ce pas, elle glorifie le Seigneur en servant, dans la bonne ordonnance, par la bonne ordonnance du repas, c'est comme ça qu'elle va glorifier le Seigneur, parce qu'elle y met tous ses soins, elle y met son cœur, mais elle veut glorifier le Seigneur, bien sûr, elle veut honorer le Seigneur. Mais Marie, elle n'a pas du tout ce caractère-là, elle n'est pas portée naturellement à manifester par des moyens extérieurs, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a entendu lui dire à Marthe, n'est-ce pas? Dire à Marthe, tu as tort de reprocher à ta sœur de rester là. Toi, tu t'agites pour beaucoup de choses. Bon, eh bien, continue tes agitations, si tant est que tu y mettes vraiment de l'adoration, n'est-ce pas, à Dieu, pour Dieu. Eh bien, laisse ta sœur exprimer son attachement, sa soif de Dieu, laisse-la exprimer cela autrement, selon son caractère naturel. Marie, donc, va exprimer cela autrement, elle va oindre les pieds de Jésus avec un parfum de nard de grand prix et les essuyer avec ses cheveux. Généralement, c'était la tête du convive d'honneur que l'on oignait d'une huile odoriférante, car le parfum était toujours en suspension et en solution dans une huile. Les parfums, en général, sont des huiles essentielles de certains végétaux, surtout de végétaux. Ce sont des huiles essentielles qui, en général, sont liposolubles, c'est-à-dire solubles dans l'huile. Et alors, c'était autrefois, on le fait encore maintenant d'ailleurs, on prend des parfums, soit dans des huiles, soit dans des graisses. Enfin là, en l'occurrence, c'était liquide, c'était donc une huile qui contenait l'huile essentielle de nard. Eh bien, c'était la tête, et c'est pourquoi vous avez dans le psaume, vous avez ceci, au verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers. Non, c'est un peu plus loin, au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile, c'est dit à Dieu, n'est-ce pas? Tu oins d'huile ma tête. Hein? Tu me fais cet honneur, et c'est ma tête que tu oins d'huile, et cette huile, bien entendu, ici, représente le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Mais, voyez, ça, c'est une figure aussi qui est empruntée à une coutume, n'est-ce pas? Et cette coutume voulait donc que ce soit la tête qui soit ointe. Eh bien, il est évident que nous devons faire la somme des deux évangiles. Dans Marc 14, il nous est dit qu'elle tenait un vase d'albâtre, ayant rompu, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Sur la tête de Jésus. Donc, Marie a d'abord répandu le parfum sur la tête. Ce qui était une marque normale d'honneur fait à quelqu'un, n'est-ce pas? C'était une coutume, une marque normale, n'est-ce pas? Mais
Jean, l'évangéliste Jean, ne s'est pas arrêté à considérer cela, parce que Marie vienne avec le parfum, c'était quelque chose, le parfum de nard, ça c'était quelque chose de tout à fait particulier et de non courant. Mais oindre la tête, c'était une chose normale, courante, elle aurait pu le faire, noter avec quelque chose de moindre, elle serait venue oindre la tête, et oindre la tête seulement, on aurait dit, bon, elle se sert d'une coutume pour honorer le Seigneur et lui manifester, n'est-ce pas, son attachement, sa reconnaissance, c'est bien, n'est-ce pas? Mais Jean ne s'arrête pas à cela, les autres évangélistes, comme Matthieu et Marc, eux, n'est-ce pas, ils ont vu la chose objective, la chose qu'ils connaissaient, n'est-ce pas, et ils ont vu la tête. Ils n'ont pas signalé les pieds, ils ont laissé les pieds comme chose, l'onction faite aux pieds, comme une chose sans trop d'importance. Tandis que Jean, lui, attache l'importance, et c'est selon sa vocation, c'est selon sa propre sensibilité, n'est-ce pas, qu'il fait cela. Il attache, lui, toute l'attention aux pieds, au point qu'il n'en signale même pas l'onction de la tête. Alors, comme c'était une quantité importante, n'est-ce pas, une quantité importante, il nous est dit qu'il y avait une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, une quantité importante, une livre romaine, ça faisait 12 onces, ça faisait 327,5 grammes. 327 grammes, n'est-ce pas, c'est quelque chose, 327,5 grammes d'un parfum, c'est énorme, n'est-ce pas. Vous voyez déjà la quantité de liquide que ça fait en huile, n'est-ce pas, la densité est inférieure à l'unité, et vous voyez, n'est-ce pas, la quantité, ça fait pas loin d'un demi-litre, n'est-ce pas, pas tout à fait, mais enfin, 400 centimètres cubes, peut-être, n'est-ce pas, chose comme ça, près de 400 centimètres cubes. Alors, ça fait une quantité, n'est-ce pas, énorme. Alors, elle est venue oindre la tête, déjà, mais sur la tête, on ne peut pas en mettre une grande quantité, parce que sans ça, ça tomberait, n'est-ce pas, il ne faut pas arriver tout de même à réaliser ce que dit ce psaume, n'est-ce pas, ça tombe sur les vêtements, n'est-ce pas, d'Aaron, n'est-ce pas, non, mais elle a oint certainement la tête, mais il en restait une grande quantité, et avec cette quantité, elle a ensuite baigné littéralement les pieds de Jésus, elle n'a pas voulu en remporter ça, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, elle n'a pas voulu en reprendre la plus petite quantité, mais elle a donc littéralement baigné les pieds de Jésus, et c'est tellement vrai que les pieds étaient tellement mouillés qu'elle est obligée de les essuyer avec ses cheveux. Enfin, pas autre chose, n'est-ce pas, que ses cheveux, et elle va essuyer les pieds avec ses cheveux qui étaient sans doute très longs, n'est-ce pas. Vous voyez. Voilà comment on peut se présenter la scène qui nous est décrite. Donc, une petite onction sur la tête, n'est-ce pas, que simplement signalent les évangélistes Matthieu et Marc, parce que c'est la chose coutumière, la chose normale, et puis le reste répandu sur les pieds, ils n'y ont pas prêté attention, alors que Jean verra que c'est une chose capitale. C'est la chose capitale. Je vous expliquerai pourquoi. Le nard, qu'est-ce que c'est que le nard? Le nard, c'est une plante de l'Inde, on en trouvait aussi un peu en Syrie, et c'est une plante odoriférante d'un parfum très fin, magnifique. J'ai eu l'occasion d'en respirer, mais il faut le diluer, il faut se mettre assez loin parce que c'est tellement fort que on n'a plus l'impression agréable, n'est-ce pas, lorsqu'on le prend de trop près, mais de loin, c'est un parfum excessivement fin. Une plante, donc, elle est fournie par une plante qui se cultivait en Inde, ou qui venait en Inde, et on renfermait l'huile essentielle des parties de la plante qui étaient traitées, l'huile essentielle dans des vases d'albâtre, vases qui ressemblent
à celui que j'ai dessiné ici au tableau, dans des vases d'albâtre qui étaient fermés à force. Vous voyez,
ici, n'est-ce pas, il y avait un bouchon d'albâtre aussi, n'est-ce pas ? Ce vase d'albâtre était naturellement poli, et il y avait ici une espèce de bouchon, n'est-ce pas, cylindrique, qui était évidemment taillé pour s'ajuster au col, mais comme il s'agit, bien sûr, d'un parfum qui, par conséquent, est très volatile, et que ce parfum se perdrait, n'est-ce pas, si le bouchage n'était absolument hermétique, d'un côté, n'est-ce pas, voilà une raison, alors on faisait quelque chose. On rôdait, ce qui se fait toujours dans le verre d'ailleurs, on rôdait le bouchon, n'est-ce pas, sur le col. On les rôdait avec une poussière de grès, n'est-ce pas, on rôdait. Ça se fait toujours, les bouchons en verre, n'est-ce pas, sur les carafes par exemple, n'est-ce pas, surtout sur les vases utilisés dans les laboratoires, sont rôdés l'un sur l'autre. Alors on rôdait l'un sur l'autre, n'est-ce pas, cela, puis. Quand le parfum était mis dans le vase, n'est-ce pas, alors on faisait un espèce de petit mortier avec de l'huile, une huile très cicative, et puis de la poussière d'albâtre. Quand on avait poli tout ça, on disposait de poussière d'albâtre. Et alors, cette poussière d'albâtre, on en faisait dans l'huile cicative, une huile très cicative, je ne sais pas laquelle. Une huile très négative, on faisait un petit mortier, et alors on enduisait ça, n'est-ce pas, et on enfonçait à force. On enfonçait à force, en tenant bien le col, on enfonçait ça à force. Et l'huile et le petit mortier empêchaient absolument toute vapeur de s'échapper du vase, n'est-ce pas. Par conséquent, les produits volatiles pouvaient remplir la partie vide du vase, mais ne pouvaient pas s'échapper. Le vase était donc clos, absolument hermétiquement. Et ensuite, lorsque l'huile avait séché, alors il était impossible de retirer le bouchon et il fallait casser le col. Il fallait percuter ici, n'est-ce pas, casser le col. Peut-être, je crois qu'il y avait des vases aussi qui avaient ce dessin, n'est-ce pas, voyez-vous, ce dessin. Moi, j'ai fait un angle là, pas absolument certain. Alors, il fallait casser le col à la base. On cassait le col. Il y avait une autre raison à cela. C'est que le parfum de nard était très cher. Et bien entendu, on le falsifiait. Et les falsifications étaient courantes. Pline cite, lui, 9 plantes qui servaient à la falsification du nard, à faire un faux nard, ou tout au moins à mélanger au vrai nard, au nard pur, n'est-ce pas, d'autres parfums qui pouvaient s'apparenter un peu, mais qui n'avaient pas la même force ni la même valeur. 9 plantes. Et l'expression employée dans l'évangile de Luc, d'un nard pur, il était vraiment pur, parce qu'il était dans son vase d'albâtre scellé, littéralement scellé, et vase d'albâtre que personne n'avait pu ouvrir. Conséquent, il était à l'abri, et il était pur, selon l'expression d'ailleurs de Tibulle, qui lui dit « nardus pura ». Nardus pura, donc on vendait un nardus pura du temps, au début de notre ère, n'est-ce pas, sous l'occupation romaine, un nardus pura, nard pur, n'est-ce pas, l'expression est donc empruntée au langage courant, c'était un nard qui était contenu dans les vases d'albâtre, lesquels avaient été scellés chez le parfumeur, hein. Et le parfumeur pouvait donner sa garantie de pureté à ce nard. Donc 327 grammes environ. En somme, Marie, n'est-ce pas, nous le voyons, rend hommage au Seigneur. Elle rend hommage en voyant sa tête, bien sûr, mais elle va beaucoup plus loin, chose qu'on ne fait jamais. Pour un, on peut, n'est-ce pas, permettre à celui, à l'autre, on lave les pieds, les serviteurs peuvent les, à l'entrée d'une maison, parce qu'il a marché dans des sandales, et la coutume était aussi de laver les pieds, mais de laver avec de l'eau. Pas d'oindre les pieds, n'est-ce pas, et surtout, une fois déjà à table, une fois que la table était dressée, que le souper était commencé. Alors là, c'est un, on peut dire que l'hommage rendu par Marie au Seigneur, n'est-ce pas, est un hommage tout à fait exceptionnel. C'est une chose non courante, exceptionnelle. Et c'est pourquoi Jean n'a rappelé que cette forme de l'hommage faite à Jésus, puisque l'onction de la tête était normale, répondait à l'usage, mais ça, c'était pas du tout dans l'usage. Pas du tout, pas du tout, c'était hors de l'usage. Et en outre, on peut dire que Marie avait appris, certainement, du Seigneur, ce qui s'était passé chez Simon, le pharisien, en Galilée, n'est-ce pas? Et elle avait appris, sinon du Seigneur, je dis du Seigneur ou de ses disciples, n'est-ce pas? Elle avait appris que dans cette maison, une femme, la femme pécheresse, était venue, mais c'était une femme vraiment connue comme une grande pécheresse, une fille publique, n'est-ce pas, qui était là, de quelle espèce avait dit Simon, de quelle espèce il savait, de quelle espèce est cette femme, n'est-ce pas? Eh bien, elle avait appris cela, les choses qui concernaient le ministère du Seigneur se disaient, n'est-ce pas, on en parlait, c'était l'objet des conversations, elle avait appris cela, et cette femme qui s'était humiliée ainsi, cette femme pécheresse, avait reçu du Seigneur le complet pardon de ses péchés. Et là, Marie, qui n'est pas dans la situation de la femme pécheresse, mais Marie éprouve cependant elle-même le besoin de s'humilier et d'apporter la même manifestation d'adoration que l'a fait cette femme dont elle a entendu parler, n'est-ce pas? Par conséquent, manifestation toute particulière au Seigneur. Cette femme, elle aussi, elle avait essuyé les cheveux, les pieds du Seigneur avec ses cheveux, n'est-ce pas? Et Marie fait de même. Voilà comment les deux récits peuvent se compléter l'un l'autre. Maintenant, n'est-ce pas, il y a quelque chose que généralement on ne voit pas, et c'est dommage, mes amis. Ayons de la foi pour l'Écriture, ayons de la foi, ne soyons pas des gens qui font de la Bible une occasion d'exercice, n'est-ce pas? Oh, chers amis, l'étude biblique, j'aime pas ça d'ailleurs, je vous le dirai, cette désignation ne me plaît pas, ne me plaît pas. Étude biblique, ça a l'air de vouloir dire, j'ai étudié le texte de la Bible, bien sûr on étudie le texte, mais le texte pour obtenir connaissance de la révélation par le moyen des Écritures et par le moyen de l'Esprit. Alors l'étude biblique, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça sent l'étude de la littérature française, n'est-ce pas? On va faire l'exégèse, peut-être une exégèse enfin rapide ou simple, d'un texte comme on le fait en littérature française. Eh bien non, 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 c'est pas ça. C'est, il faut faire ou de l'enseignement ou de la méditation. Hein? Enseignement ou méditation. Il faut chercher la pensée et il faut de la foi. Le Saint-Esprit ne peut donner qu'à la foi. Il vous sera donné dans la mesure de votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. N'est-ce pas? Il faut de la foi. Et chers amis, nous avons quelque chose là qui a été omis. On ne le trouve nulle part. Et c'est dommage. C'est dommage. Il y a un rapprochement à faire avec le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques. Au chapitre premier,
au verset 12. Chapitre 1er, verset 12. C'est la Sulamite qui parle. Tandis que le roi est dans son entourage, mon nard exhale son parfum. C'est quelque chose, une mention bien petite peut-être, il y en a tant d'autres dans le Cantique des Cantiques, ce beau joyau des Écritures de l'Ancien Testament. Mes amis, mais c'est magnifique. Vous savez que tous les grands faits du ministère du Seigneur Jésus étaient tous annoncés dans les Écritures, tous annoncés d'avance. Et cela qui était écrit dans le Cantique des Cantiques, n'était-ce pas déjà une proclamation? Vous savez que les paroles prophétiques se glissent partout dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, c'est remarquable, n'est-ce pas? On parle de choses actuelles, de choses courantes, puis toc, tout à coup, n'est-ce pas? Il y a une apparition d'une parole prophétique qui va se projeter au loin. Il faut avoir remarqué ces choses. Eh bien là, c'est le cas. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Et c'est une chose qui devait s'accomplir. Littéralement. Elle devait s'accomplir littéralement. Là, elle est dans la poésie. Dans la poésie, le Cantique des Cantiques est une poésie, c'est un poème, n'est-ce pas? Elle est dans la poésie. Elle a un sens, bien sûr. On peut trouver le sens. Nous avons fait l'étude l'an dernier, je crois, ou il y a deux ans, je ne sais plus. Ici, l'étude complète du Cantique des Cantiques, n'est-ce pas? Et nous avons trouvé le sens de cela. Mais il fallait aussi, puisque cela a un caractère prophétique, que ça s'accomplisse. Eh bien, le roi Jésus va, aussitôt après ce souper à Béthanie, il va entrer à Jérusalem, et c'est là qu'il va se faire reconnaître pour le roi qui ne vient pas régner dans l'immédiat, mais qui est le roi d'Israël. Il va se faire. Et justement, c'est ce souper qui prélude à l'entrée de Jésus dans Jérusalem, n'est-ce pas? Il est bien le roi, et on a donné un souper pour lui, où il y a beaucoup de convives, n'est-ce pas? Avec ses amis, le ressuscité qui est là, n'est-ce pas? Comme la vivante attestation de la puissance qui a été déposée dans les mains du Seigneur. Et puis le roi est là dans son entourage, ses amis sont là, ses disciples sont là, Marthe et Marie sont là, n'est-ce pas? Qui le servent et qui l'honorent, le roi est dans son entourage, mon art exhale le parfum. Et c'est la Sulamite. Et Marie prend ici le rôle, en somme, de la Sulamite. Elle prend le rôle de la Sulamite. Elle prend le rôle, en somme, de cette âme. Elle prend le rôle de l'Israël, de l'Israël. L'Israël épouse. Et l'Église épouse. Elle prend ce rôle. Et elle exhale le parfum de nard. Toute la maison fut remplie du parfum de nard. Mais, chers amis, mais le rapprochement est magnifique à faire. Il faut que nous soyons, que nous puissions vibrer par la foi. Alors, moi, je suis désolé, littéralement désolé, quand on fait l'étude de la Bible, une étude, vous savez, une étude sans relief, une étude sans... on cherche, on discute les choses, etc. Et puis, de temps en temps, on trouve l'occasion d'une petite plaisanterie. Moi, je ne peux pas supporter ça. Je vous le déclare, je ne peux pas supporter ça. N'est-ce pas? Ou c'est spirituel, ou ça ne l'est pas. Et si c'est spirituel, mais laissons agir la foi. C'est un langage que Dieu a tenu pour nous. Un langage précis, concis, mes amis. Et il y a là toutes sortes de valeurs qu'il faut retrouver. C'est un des beaux morceaux du Nouveau Testament, cela. Alors donc, n'est-ce pas, la chose était déjà dans l'Écriture, elle s'accomplit là, c'est merveilleux. Alors on peut voir la Sulamite, vous savez que Sulamite, c'est le féminin de Salomon, n'est-ce pas? Et alors, n'allons pas surtout chercher les interprétations de côté, n'est-ce pas, si utile que puisse être cet auteur en d'autres occasions. N'allons pas chercher l'étude de Godet sur le Cantique des Cantiques. On vend ça dans nos librairies évangéliques. J'en suis désolé. Désolé, parce que c'est tout de même pas... Frédéric Godet n'a tout de même pas eu
le jaillissement de foi nécessaire pour comprendre vraiment le Cantique des Cantiques, n'est-ce pas? Et puis alors, j'ai appris d'un autre auteur que Hilse, un auteur contemporain, n'est-ce pas, c'était son contemporain, qu'il s'était inspiré d'Ernest Renan. Alors, tout est dit, n'est-ce pas? Frédéric Godet qui se laisse inspirer par Ernest Renan. Ernest Renan, qui, vous savez, est un négateur de la divinité de Jésus. Bah, alors, non, c'est de la destruction, tout ça, n'est-ce pas? La Sulamite, c'est le féminin de Salomon, n'allons pas chercher autre chose, ça veut dire la paisible. Et Salomon, le pacifique, le paisible. Et la paisible, c'est la bien-aimée du paisible. Alors, déjà, les choses s'éclairent, n'est-ce pas? C'est la bien-aimée, c'est la fiancée, c'est la sœur même. Tous ces noms-là ne sont dans l'Ancien Testament lui-même, comme nous l'avons vu. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Oh, il y avait là, de la part de Marie, une magnifique adoration. Et lorsqu'il y a une réelle adoration, chers amis, n'est-ce pas un parfum d'agréable odeur qui doit se répandre partout? N'est-ce pas là ce qui se passait dans la maison de Simon le lépreux? N'est-ce pas là l'image de ce qui devrait se passer dans nos cultes, chers amis? S'il y avait de la vraie adoration, ben l'odeur du parfum qui est agréable aux narines de Dieu, l'odeur, ce parfum devrait être agréable aux autres aussi. Et nous devrions nous sentir là vraiment enveloppés dans la nuée. Nous devrions nous sentir transportés dans les célestes au cours d'un culte. Amis, comme nous avons bien besoin de progrès. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mais hélas, et les évangiles, l'écriture ne nous fait grâce d'aucune des choses qui peuvent assombrir un tableau sur la terre, tout est susceptible d'être assombri en un moment. Il y a toujours quelque chose qui achoppe. Il y a toujours l'effet de cette contradiction. Le mal est encore là. Nous sommes sur la terre et nos agapes, vous savez, agapes, je dis agapes parce que les agapes, c'était des soupers que faisaient les premiers chrétiens. On devrait y revenir à ça. C'était beau. Ces soupers, agapes, le mot agape vient du mot agapé, mot grec agapé, qui signifie amour, et il faisait des soupers, il faisait la Sainte Cène, soit avant, soit après le souper, mais ces soupers étaient entourés de prières, c'était un temps où l'on donnait libre carrière à l'amour fraternel, sous le regard du Seigneur. Eh bien, au milieu de nos agapes, il y a toujours un sujet de contrariété, il peut toujours y avoir un sujet de contrariété. Tous les cœurs ne vibrent pas à l'unisson, tous les cœurs ne se sont pas purifiés pareillement, et le cœur de Judas était ici rempli d'un trouble profond. Tout en partageant la vie des disciples et la présence du Seigneur, son cœur méditait le mal. Et ici, nous le voyons prendre un prétexte qui fait de lui un homme charitable, s'il vous plaît. Celui qui prend un prétexte, n'est-ce pas, ne prend jamais un prétexte qui le désavantage. Au contraire, n'est-ce pas, ça lui donne un aspect, un extérieur, une apparence. Voilà Judas, le voleur. Il mettait sa main dans la caisse et il prenait, voyez comme il avait souci des pauvres, n'est-ce pas, c'était lui le pauvre. Et il prenait dans la caisse, mais ici, tout en étant voleur, puisque c'est rappelé ici, n'est-ce pas, il volait, il tenait la bourse, il était le trésorier de la petite équipe du Seigneur, il tenait la bourse, et il prenait ce qu'on y mettait. Eh bien, il se fait l'homme charitable. Oh, quand le cœur est trouble, voyez quelle hypocrisie. Entre l'extérieur, on se donne. Et puis, ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que médite le cœur? Le cœur médite des choses sombres, ténébreuses. Et puis, lui aussi, il va tendre un piège au Seigneur Jésus. Il va faire comme les pharisiens. Il va tendre un piège au Seigneur Jésus. En effet, le Seigneur Jésus va devoir se prononcer, après sa parole, entre le soulagement de la misère des pauvres, qui est une chose sainte, certes, une chose que personne ne peut repousser, n'est-ce pas, le soulagement de la misère des pauvres. Il va devoir se prononcer entre ce soulagement de la misère, et puis, n'est-ce pas, l'attribution qui lui est faite de cet honneur sous la forme d'un parfum de très grand prix répandu, n'est-ce pas, une perte en somme qui a été faite pour sa seule personne. Il va devoir se présenter. Donc, il met son Seigneur dans un piège. Il est évident que Jésus ne se laisse jamais enfermer dans un piège. Mais il tend un piège. Voyez comme c'est mauvais. Quand on a l'âme trouble, est-ce qu'on ne tend pas un piège, nous aussi, au Saint-Esprit? Chers amis, il faut mesurer tout cela, il faut penser à tout cela. Voyez-vous comme l'âme a besoin d'être pure et doit jamais se laisser aller à méditer des choses sombres. Il faut la pureté. Judas, comme le texte nous le dit, n'est pas vraiment en peine de la misère et du soulagement de la misère des pauvres. Non, pas du tout. C'est une hypocrisie. 300 deniers, pensez-vous. 300 deniers. Qu'est-ce que ça pourrait faire maintenant? On ne sait plus avec les monnaies, mais enfin, mettez que ça puisse faire 30 ou 40 000 francs anciens. N'est-ce pas? C'était une somme magnifique. Et alors, lui, il voyait ça tout simplement, on allait mettre ça dans la bourse de la petite équipe des disciples, n'est-ce pas? Et puis, il pourrait plus largement, plus ouvertement plonger sa main, n'est-ce pas? Sa main en retirerait encore bien davantage. N'est-ce pas? Si on mettait ces 30 ou 40 000 francs, ces 300 deniers dans la bourse, n'est-ce pas? Oh! Et c'est son avarice qu'il fait parler ainsi. C'est tout simplement son avarice qui prend le déguisement d'un sentiment de charité. Comme c'est mauvais. Et je parle souvent de l'odieuse nature humaine. Elle est odieuse. Elle est odieuse. Et nous sommes tous des odieux tant que nous ne sommes pas sous le lien de l'esprit. Et des chrétiens peuvent faire des choses odieuses si, quittant l'esprit, ils se livrent à l'esprit du mal. Notez que dans la bourse, n'est-ce pas, c'est bien dans la bourse que Judas voyait mettre ça, parce qu'il y a un petit détail qu'il faut signaler. C'est bien dans la bourse. Il parle des pauvres. Mais en réalité, il veut dire, la bourse que je tiens, c'est là qu'il faudrait le mettre. Parce que, voyez, dans ce même chapitre 12, et au verset 29, je veux dire au chapitre 13, au chapitre suivant, et au verset 29. Nous lisons que ceci, « Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. » Alors, voyez que la bourse servait en somme à deux fins. Elle servait à l'entretien, à la nourriture de la petite cohorte des disciples, n'est-ce pas? Elle servait à acheter des vivres, ben, il le fallait bien. Et puis, elle servait aussi, si on trouvait en chemin un pauvre, à lui donner quelque chose. Ben, elle servait à faire cette charité, enfin, elle servait à deux choses. Alors, en disant, on aurait mieux fait de donner ça aux pauvres, ça voulait dire, on aurait mieux fait de mettre ça dans la bourse, n'est-ce pas? Avec le prétexte de mieux secourir les pauvres, et puis moi, j'aurais eu la réalité de bien plonger ma main et de la retirer bien pleine. Hein? Voilà ce que le cœur de cet homme méditait. Et voyez que cet homme, ce n'est pas tout de suite, mais il va être conduit à livrer son maître. Il va être conduit parce qu'il n'a pas laissé le trouble de son cœur partir. Chers amis, dans nos églises, quand on manque à se laisser sanctifier, purifier, mais savez-vous qu'on peut descendre très bas? Et c'est pourquoi on trouve dans nos églises des gens qui font des choses infâmes. disons-le, des choses infâmes. Et quelqu'un l'a dit, et c'est vrai, on trouve quelquefois dans l'Église des choses qu'on ne voit pas même dans le monde, enfin dans le monde courant, dans notre entourage. Parce que Satan est là qui vous guette, et si vous laissez l'esprit du mal fermenter dans votre cœur, si vous le laissez là, Satan attendra son heure, il attendra un moment propice, n'est-ce pas, comme pour Hérode, et puis alors à ce moment-là, bon, n'est-ce pas, il vous fera tomber bien bas. Il est là comme un lion rugissant, il cherche à dévorer. Alors ne nous laissons pas dévorer, pour ça, n'est-ce pas, prenons bien garde à ne pas entretenir un trouble dans le cœur. Bien vite, n'est-ce pas, si ce trouble est venu, le confesser et s'en humilier et obtenir la purification du Seigneur. Et Jésus va répondre, mais seulement la réponse évidemment que nous avons ici n'est pas suffisante, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne les avez. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alors, c'est dans Marc qu'on trouve la bonne explication. Jésus dit, laisse-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Alors, de ces, voilà ce que nous allons pouvoir retirer, les pensées que nous allons retirer de ces paroles. Retenons aussi ceci, c'est que le verset 4 de Marc, verset 4 du chapitre 14 de Marc, nous dit « À quoi bon perdre ce parfum ?»« À quoi bon perdre ce parfum ?» Et le Seigneur dit « Elle a fait une bonne action à mon égard. Vous ne m'avez pas toujours, mais les pauvres, vous pouvez toujours exercer la charité, vous les aurez toujours. » Jésus va donc donner à l'acte de Marie sa véritable signification, signification bien entendu d'ordre spirituel. Car dans l'acte de Marie s'exprimait l'esprit, et c'est ça qui en fait la valeur. Si ça avait été un acte dans lequel se fût exprimé tout autre chose, ça n'aurait eu aucune valeur. Mais là s'exprimait vraiment l'esprit. Marie, en quelque sorte, a anticipé sur la sépulture du Seigneur, voyons d'abord cela, et l'hommage qu'elle lui a rendu en loignant de ce parfum, n'est-ce pas, anticipe sur l'embaumement du corps de Jésus, ce qui veut dire embaumement, ce qui veut dire sa sépulture, évidemment, sa sépulture. Mais l'hommage qu'elle a rendu l'est à celui qui va donner sa vie, qui va mourir, sa sépulture. Jésus évoque sa mort, qui va donner sa vie pour l'amour des hommes. Oh, cet amour à l'adresse de celui qui va donner sa vie pour les hommes, cet amour ne surpasse-t-il pas la charité à l'égard des pauvres? D'autant plus qu'il va s'accomplir en un instant. Ce que fait Marie, on ne le fera pas toujours, on ne pourra pas toujours le faire. C'est fait là en une unique occasion, n'est-ce pas? Et c'est une chose qui surpasse déjà de beaucoup la charité à l'égard des pauvres. Cela s'accomplit donc une seule fois, raison de plus pour approuver la chose et y voir une bonne action à l'égard de Jésus, c'est-à-dire une action belle, une action qui est inspirée par le Saint-Esprit, une action qui est un signe, une action qui est la manifestation de sentiments, de dispositions de cœur que Dieu voudra trouver dans tant d'autres cœurs. Le cœur de Marie est comme là le prélude à ce que d'autres cœurs devront éprouver et manifesteront peut-être sous d'autres formes, mais qu'ils devront éprouver. En somme,
la mort du Seigneur Jésus, c'est le rachat, la vie des autres hommes. Il suffira d'un seul acte, il suffira d'une seule mort pour sauver tous les hommes. Et n'est-ce pas Judas qui va être, lui, le signal de cette mort? C'est Judas, celui-là, cet avare, qui va devenir le signal. C'est lui qui va donner le signal de cette mort unique, dont les conséquences seront magnifiques et si vastes. C'était une perte. L'évangile de Marc nous dit, n'est-ce pas, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation, à quoi bon perdre ce parfum? Quelques-uns, parce que Judas, n'est-ce pas, avait causé à quelques convives qui étaient là à son côté, puis il leur avait dit, vous savez, tout de même, on aurait mieux fait de garder ça et de mettre ça dans la bourse, on aurait pu ensuite se donner aux pauvres, n'est-ce pas? Et alors d'autres, ne voyant pas plus loin que le bout de leur nez, n'est-ce pas, ne dis pas que c'est des apôtres, n'est-ce pas, mais enfin ça pouvait être d'autres convives, n'est-ce pas, ont pu dire, ah oui, oui, c'est vrai, tu as raison, Judas, oui, oui, c'est vrai, dans le fond, elle est allée un petit peu, c'est excessif, quoi, que les énonciations, bon, ça va bien, mais là, 30 000, 40 000 francs, peut-être 50 000 francs de parfum répandu comme ça, là, en une seule fois quand même, bah oui, ça fait une somme, n'est-ce pas, vous voyez. Alors, quelques-uns avaient pu se laisser aller à penser comme Judas, mais lui était l'instigateur de ça. À quoi bon perdre ce parfum? C'était une perte, en effet. C'était une perte. Il arrive, n'est-ce pas, que les gens mal inspirés prononcent, nous l'avons vu chez Caïphe, et nous l'avons vu encore dans un autre cas, prononcent quelquefois le mot de vérité sans s'en douter. Mais c'était une perte. C'était en effet une perte que de répandre tant d'un précieux parfum. Mais c'est bien ce que voulait Marie. Marie voulait cela, elle ne voulait pas moins. Elle voulait perdre cela, une perte, elle voulait abandonner aux pieds du Seigneur ce qu'elle possédait de plus précieux. Elle était allée dans sa maison, dans sa chambre, et là, elle savait que elle avait ça, d'où le tenait-elle, peu importe. Elle avait ce vase qu'elle conservait depuis longtemps. Elle n'en aurait pas fait usage pour elle-même, mais elle conservait ça, c'était quelque chose de précieux. Tout le monde n'avait pas un pareil vase, un pareil parfum. Elle le gardait. L'occasion était là. Qu'est-ce qu'elle a de plus précieux? Elle a ça, elle le prend. Et elle vient, et elle veut, elle brise le vase. N'est-ce pas? Et elle va l'ouvrir, et elle va sacrifier ce qu'elle a de plus précieux. Et en cela, elle manifeste un sentiment. Quel sentiment? Le sentiment qu'elle veut abandonner sa vie, qu'elle a besoin d'abandonner sa vie à celui qui a la puissance de résurrection. Son frère n'est-il pas là, table? Celui qui a la puissance de résurrection, elle voit son frère qu'elle a tant pleuré, car c'est une femme sensible. Elle voit son frère là, et lui, ce Seigneur, il a ressuscité son frère. Il peut faire tant de choses, il fera tant pour elle aussi. Alors, ce qu'elle a de plus précieux, c'est cela qu'elle est empressée précisément à perdre ce qu'elle a de plus précieux, dans le sentiment d'abandonner sa vie à celui qui a la puissance de la vie. Et chers amis, n'est-il pas bon de mourir en celui qui donne la vie? Une perte, mais c'est bien cela qu'une âme vraiment attirée à Christ voudra faire, se rapporter à faire par l'Esprit lui-même, perdre sa vie, l'abandonner entièrement. Le parfum de nard, si précieux soit-il en ce monde, il périrait. Il périrait un jour en admettant que personne ne s'en servit, ou qu'on le vendit comme cela, n'est-ce pas, de l'un à l'autre pour faire de l'argent. Mais un jour, si personne ne le brise, ce parfum périrait. Il pourrait aussi être utilisé d'une façon vaine. Il pourrait être utilisé d'une façon vraie, tout comme notre vie, tout comme notre propre vie,
chère famille, un jour, si nous voulons la conserver, cette vie, elle périra. Et si nous voulons l'utiliser nous-mêmes, eh bien, ce sera pour des choses saines, et nous la perdrons aussi, ce sera perdu. Ne vaut-il pas mieux que ce parfum de nard serve maintenant à honorer et à oindre celui qui aime suprêmement, celui qui a l'amour et la puissance de l'amour? Ne vaut-il pas mieux l'utiliser? N'est-ce pas là la seule utilisation véritable de cette chose précieuse? Et, chers amis, une vie humaine est la chose la plus précieuse. Nous n'avons rien de plus précieux que notre vie. C'est bien une chose précieuse, n'est-ce pas? Eh bien, on pourrait la perdre vainement, on pourrait la dépenser, n'est-ce pas? Vouloir la conserver pour soi, la garder pour soi, et puis la dilapider. C'est un bien que nous dilapidons dans le monde. Nous dilapidons notre vie de différentes manières, aussi bien souvent notre vie physique, notre vie morale, que notre vie spirituelle. Nous nous enfonçons toujours davantage dans les ténèbres et dans la tourbe de cette humanité corrompue. Eh bien, une vie humaine, c'est la chose précieuse, mais c'est cela qu'il faut perdre. C'est précisément cela que le Seigneur nous demande de perdre. Dans ce même évangile de Jean et ce même chapitre 12, regardez les versets 25 et 26. « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et Marie a servi Jésus. Elle est honorée du Père. Elle a perdu ce qu'elle avait de plus précieux. Et cela, elle a entendu dans son cœur abandonner sa vie, confier pleinement sa vie. Elle n'a plus aucune aspiration en dehors de celui-là qui a la puissance de l'amour et de la résurrection. Ce qu'elle a de plus précieux, elle l'a répandu. Et c'est cela que le Seigneur nous demande. Haïr notre vie ou perdre notre vie. Dans les évangiles synoptiques, c'est perdre notre vie. Celui qui perd sa vie la retrouvera en vie éternelle. Mais il faut perdre sa vie. Comme Marie a perdu ce parfum, c'est une perte. C'est une perte et c'était une perte. Judas avait raison, mais Judas ne comprend rien. Judas n'a pas de regard que pour l'enfer. C'était une perte donnée, non pas à l'enfer, mais donnée au ciel. Une perte donnée à celui qui peut nous conduire, qui peut, d'un mouvement de son bras, nous introduire dans le royaume de Dieu. C'est une perte entre ses mains. Une perte, oui, c'est vrai, et c'est ce qu'il faut, chers amis, mais c'est ce que nous ne faisons pas. Une perte, il faut perdre sa vie. Ça, pourquoi cette parole n'est-elle pas mise en pratique, chers amis? Est-elle de trop dans l'évangile? S'il y avait vraiment cela, si nous rendions cet hommage au Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, et si nous le rendions d'une façon effective, chers amis, au lieu de vivre pour soi, au lieu de penser à soi, eh bien, si nous faisions cela, nos églises seraient tout autres qu'elles sont. S'il y avait vraiment une perte de vie, mais c'est parce que nous gardons, c'est parce que nous voulons exploiter nous-mêmes, c'est parce que nous voulons encore jouir de cette vie nous-mêmes, selon nos moyens, selon les moyens charnels. Nous voulons jouir de cette vie sur la terre. Nous ne la perdons pas. Chers amis, que ce parfum répandu par Marie et qui est l'expression de l'amour de la Sulamite à son bien-aimé, l'expression de l'amour de Marie à Jésus, celui qui a ressuscité son frère, celui qui a la puissance de la vie, que cet hommage rendu, cet abandon, cette perte d'un parfum de grand prix, cette perte de vie, reste pour nous une image précieuse, chers amis, et que nous sachions nous en souvenir pour mettre en pratique cela. Amen.